Chapitre 13. Comme chaque fois qu'il doute, Vincent revient mentalement là où tout a commencé. Fermer les yeux. Revivre l'étincelle. Il était jeune lorsque, pour la première fois, il a découvert le pouvoir des illusions et l'ingéniosité qu'elles exigent. En un instant, son destin s'en est trouvé changé. Comme s'il était né à ce moment précis. Le choc avait été si grand qu'il en avait aussitôt oublié tout ce qui empoisonnait sa vie. Une éclatante lueur dans sa nuit, son premier instant d'éternité. Depuis, il n'a de cesse de retourner puiser au cœur de ce souvenir intime. Il y est, comme si c'était hier. Il vient de terminer sa tournée de livraison. Les sacs de charbon, qui laissent échapper leur poussière noire, pèsent plus lourd que lui. Comme tous les jeudis, il garde l'adresse de l'horloger pour la fin, en espérant qu'il pourra s'y attarder un peu. Il se sent bien dans sa boutique, mais plus encore dans son atelier. Ce soir-là, le brave homme a un peu plus de temps à consacrer au petit curieux dont le visage est aussi sale que les mains. Il lui indique un baquet d'eau froide où se nettoyer et déclare « Viens, je vais te montrer quelque chose qui devrait te plaire ». Vincent le suit. L'homme écarte le rideau d'un théâtre miniature. Le gamin y découvre un immeuble de la taille d'une maison de poupée. L'horloger remonte une manivelle et lance le mécanisme. Aux fenêtres, des petits personnages en fer plat s'animent. Une femme étend son linge et un homme met son chapeau. Sur le toit, un chat tigré fait des allers-retours entre deux cheminées. Leurs mouvements sont cycliques, sans cesse répétés. Tout à coup, de minuscules flammes découpées apparaissent aux ouvertures. Peintes en rouge et en orange, elles dansent suivant un rythme régulier. L'immeuble est en feu. L'homme, la femme et le chat s'immobilisent. On les entendrait presque appeler au secours. Un attelage de pompiers entre en scène et avance en suivant son rail. Il se positionne devant le bâtiment. Comme par magie, son échelle pivote et se déplie, élevant un soldat du feu vers le sinistre. Les flammes disparaissent. L'homme, la femme et le chat reprennent leur manège. Le mécanisme s'arrête. Le gamin reste ébahi, sans voix. C'est comme un rêve éveillé, sauf que tout est réel. Il l'a vu de ses propres yeux grands ouverts. Vincent n'oubliera jamais la sensation qu'il a éprouvée en découvrant cet automate. Il l'avait d'abord pris pour le jouet d'un enfant de millionnaire, mais quand son mentor lui avait dévoilé toute la mécanique se cachant derrière et parlé du brillant magicien qui l'avait imaginé, l'émerveillement l'avait saisi. Il ne s'était plus trouvé devant un jouet de luxe, mais au seuil d'un univers fabuleux qu'il avait franchi pour ne plus jamais en ressortir. Ayant compris tout ce que l'on pouvait créer, Vincent avait sur l'instant choisi sa voie. Rien ne pouvait le captiver davantage que de se consacrer à cet art. Le garçon avait ensuite découvert que même le plus amusant des tours est toujours le fruit d'un savoir incommensurable et d'une réalisation sans faille. Il lui avait fallu quelques mois de plus pour prendre conscience que plus l'effet semble simple, plus ce qui le provoque est complexe. Année après année, Vincent ne s'est jamais lassé de ce petit spectacle mécanique. C'est d'ailleurs le seul souvenir matériel qu'il ait reçu de son mentor. Il en répare les pièces usées, en entretient minutieusement les peintures et, de temps en temps, s'autorise à le faire fonctionner. Avec parcimonie, toutefois, de peur que le sentiment qu'il fait naître ne se fane à force d'être répété. Il attend parfois la bonne occasion pendant des mois. Elle intervient alors comme une récompense ou une nécessité. Ce merveilleux automate offre la remarquable spécificité de concentrer la plupart des principes existants dans le domaine. Il constitue une synthèse, et pour Vincent, un gisement intarissable d'inspiration et une incitation permanente à la modestie. Pierre interrompt sa rêverie. Qu'est-ce que tu attends pour essayer? Vincent revient au présent. Dans l'atelier, l'heure est venue de tester en conditions réelles le dispositif qu'il a imaginé pour un compartiment secret d'un genre nouveau. Alors que Conrad, Eustasio et Pierre gardent les yeux rivés sur le mécanisme, Vincent approche un morceau de pyrite aimanté de la fine paroi de bois. Lorsque le minerai est assez près, le magnétisme attire la patte de métal placée à l'intérieur, qui se décale d'un seul coup et libère le ressort qu'elle retenait. Un claquement sec retentit, c'est ouvert.
« Ton idée fonctionne !» se réjouit l'Allemand. Eustasio se frotte les mains. « Fantastico, c'est la bonne solution !»
Vincent repose la pyrite, un large sourire aux lèvres. Une clé invisible, ni trou d'entrée, ni mécanique. Il suffira juste de savoir où poser l'aimant pour déverrouiller le panneau. Il rejoint la table et complète le croquis du mécanisme. Le volet de bois ne devra pas être trop épais, sous peine de brouiller l'effet. Il corrige les mesures et ajuste l'orientation du ressort. Conrad commente.
« Wunderbar! Les clients vont penser que c'est de la magie. »
« Tant mieux, note Pierre. » Vincent approuve d'un mouvement de tête et précise. « Nous ne devrons mettre en œuvre ce dispositif que pour ceux qui seront capables de l'apprécier. » Venu par le tuyau qui espionne la cuisine, la voix de Gabriel résonne soudain dans la cave. « Messieurs, le repas est prêt. » Les quatre hommes sursautent. Bien que la jeune femme habite la maison depuis maintenant plus d'une semaine, chacun est encore surpris de sa présence. Pourtant, elle a su s'intégrer, et tous considèrent son arrivée comme bénéfique. Ayant compris qu'elle ne devait pas s'aventurer dans l'atelier souterrain, elle se cantonne au rez-de-chaussée et aux étages. Elle y passe ses journées, s'occupant du matin au soir, sans jamais sortir de l'ancienne pension de famille. Pas une fois, elle ne l'a quittée depuis son arrivée rocambolesque. À l'intérieur de cet univers clos aux frontières rassurantes, elle reprend confiance et même goût à la vie. Les occupants se montrent bienveillants avec elle, même si toute méfiance n'a pas disparu. Parfois, elle se demande s'il s'agit vraiment d'un défaut de confiance ou plutôt de leur manque d'habitude de côtoyer une femme. Après tout, avant son irruption, l'adresse n'était habitée que par des hommes. D'ailleurs, la tenue de la maisonnée s'en ressentait. Décidée à tout faire pour qu'il continue à accepter de l'héberger, Gabrielle s'efforce de leur offrir un supplément de confort. Outre les repas qu'elle prépare pour toute l'équipe, elle a aussi apporté un peu de vie dans la maison, dont elle prend un soin inédit. Les chambres sont aérées, les lits faits. Le désordre et la poussière reculent. Alors qu'elle répète déjà son invitation, Pierre lui répond en portant la voix. « On arrive !»« Allez-y, je vous rejoins », annonce Vincent. « Je dois noter certains détails tant qu'ils sont clairs dans mon esprit. » Ses trois compagnons ne se font pas prier. À peine ont-ils disparu dans l'escalier que Vincent tire un petit carnet de sa poche. Il l'ouvre pour y consigner le fruit de ses réflexions. Il ne sait ni pourquoi ni comment, mais depuis longtemps, il est convaincu que c'est essentiel pour l'avenir.
Chapitre 14. À peine a-t-il pénétré dans l'immense salle de bal que Vincent est bousculé par un couple de danseurs. Emporté par leur élan, il ne le remarque même pas, collé l'un à l'autre, trop occupé à se dévorer aussi bien des yeux que des mains. Comme tous les mercredis soirs, ils sont des centaines à venir se divertir rue de la Douane, au Vauxhall des Jardins de Tivoli, l'un des bals les plus courus de Paris. Les robes à jupons tournoient, les moustaches sont parfaitement lustrées. Des bras séducteurs et virils maintiennent des hanches souples et peu farouches. Les décolletés profonds s'offrent au vertige d'une soirée de fête comme seul Paris sait en proposer. Sur l'estrade, les 30 musiciens jouent fort, mais pas assez pour couvrir les rires des hommes et les exclamations des femmes. L'établissement propose dans son orchestre un virtuose du nouvel instrument à la mode, le saxophone. dans une capitale qui vit de plus en plus la nuit, des centaines de couples, souvent illégitimes, se forment sur des rythmes endiablés. Les danses se succèdent, des quadrilles affolées, des reprises d'opéra bouffe, entrecoupées de morceaux venus d'horizons différents, comme la lointaine Nouvelle-Orléans des Amériques. Peu importe la provenance du morceau, pourvu qu'il soit entraînant. Par-dessus la musique, un présentateur à l'habit fatigué annonce déjà le numéro à venir du célèbre contorsionniste Valentin le Désossé. Vincent se fraye péniblement un chemin dans la foule festive. Jamais il n'a fréquenté ces soirées. Il aurait sans doute bien aimé céder à ces ambiances aussi joyeuses que superficielles, mais son existence ne lui en a pas laissé le loisir. La nécessité lui a appris à préférer les vertus de l'aube au charme de la nuit. Lui n'est pas ici pour se distraire, séduire ou s'enivrer. Aussi bizarre que cela puisse paraître, c'est le travail qui l'amène dans ce temple de la danse et du libertinage. Une première. Jamais il n'avait payé un franc pour se rendre à un rendez-vous, et c'est pourtant ce que lui a coûté l'entrée. Quel genre d'homme, dont il n'a d'ailleurs aucune recommandation, peut organiser une entrevue dans un endroit pareil pour un motif sérieux? Vincent progresse au hasard, en se demandant s'il reconnaîtra seulement celui qui l'attend. Insensible au corps qui le frôle, masculin ou féminin, il scrute la coursive qui domine tout le pourtour de la salle. Celui qui a souhaité le rencontrer devrait logiquement s'y trouver. Il aperçoit beaucoup de couples, des tablés d'amis. Soudain, il croise le regard d'un homme seul. L'individu se tient bien droit, les tempes grisonnantes encadrant un visage fin et anguleux. Il émane de lui une indéniable noblesse. L'inconnu lui adresse un signe discret. Pour rejoindre l'escalier qui mène à la coursive, Vincent doit encore traverser la moitié de la salle. Les danseurs forment une marée humaine dont il peine à remonter le flot. À contre-courant, chahuté, parfois entraîné, il parvient malgré tout à rallier son but. À l'étage, l'ambiance est tout aussi frivole, mais heureusement moins débridée. Vincent ne prête aucune attention aux regards insistants des femmes. Il avance droit vers l'homme qui s'est levé pour l'accueillir. Il se salue. Vincent note les mains soignées de l'inconnu. Il n'est donc pas de basse condition. La poignée de main est froide, juste assez ferme pour rassurer. Il remarque aussi le chapeau melon posé à côté de lui. L'accessoire est un symbole social plus ambigu que ne le serait une casquette ou un haut de forme. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Prenez place, je vous prie. Vincent se glisse sur sa chaise. La vue sur la salle y est excellente. Ne les regardez pas danser trop longtemps, ironise l'homme. Cela donne le mal de mer. Sans chercher à s'en dissimuler, l'inconnu pose un regard à la fois franc et serein sur Vincent. Celui-ci en serait presque impressionné. En contrebas, l'orchestre vient d'entamer une gavotte. La foule réagit et se reconfigure dans une débauche de gesticulations bruyantes. Face à Vincent, l'individu reste étrangement silencieux. Pour être honnête, monsieur, lance Vincent, j'ai hésité à venir. Je m'en doute. Rassurez-vous, je n'ai pas choisi ce lieu parce qu'il me plaît, mais parce qu'il m'est utile. La foule est un remarquable gage de discrétion. La réflexion interpelle Vincent. Il pensait être le seul à raisonner de la sorte. Puis-je vous demander qui vous a recommandé nos services ? Personne. Ce sont vos créations qui m'ont conduit à vous. Vous trouvez n'a pas été simple. Comment avez-vous découvert notre existence ? Disons que les circonstances ont amené certains de ceux qui vous connaissent à me parler de vos prodiges. Mais, pour vous dire vrai, je n'avais aucune idée de ce à quoi vous ressembliez physiquement. Vous m'avez pourtant tout de suite reconnu lorsque je suis entré dans le bal. Reconnu, non. Identifié, oui. Aucun homme ne vient ici seul, Vincent. Nous sommes des exceptions. Et j'imagine sans peine ce que doivent en déduire certains. L'idée semble amuser l'individu. Vincent n'est pas à son aise.
Vous avez signé votre message, monsieur Charles, dit-il, se concentrant de nouveau sur leur conversation.
Est-ce seulement votre véritable nom ?
Judicieuse question.
Charles est mon prénom. Je ne communique pas mon patronyme.
Exactement comme vous, monsieur Vincent.
Une femme plantureuse à la tenue tapageuse approche et les entoure de ses bras sans manière.
Que vous faut-il pour votre bonheur, mes seigneurs ? Du vin, de l'amour ?
Charles répond sans se démonter. Servez-nous du vin. De cela, il est honnête de faire commerce.
À vos ordres, messieurs.
La femme s'éloigne. Qu'attendez-vous de moi ? Demande Vincent.
Une compétence, sans aucun doute. Pourquoi pas un appui ?
Expliquez-vous.
En contrebas, l'armée de couples virevoltants vient d'entamer une valse autrichienne jouée sur un tempo d'opérette.
Cela ne trouble pas les deux hommes.
En quoi croyez-vous, Vincent ?
Pardon ?
L'homme le regarde droit dans les yeux.
D'où vient votre force de vie ?
Pour quoi ou pour qui vous battez-vous ?
Vincent hausse un sourcil. Une question si personnelle, dans un lieu si artificiel, a quelque chose de déplacé.
Pardonnez ma franchise, monsieur, mais ce sont des sujets privés que je n'aborde pas avec des inconnus dans des endroits qui s'y prêtent si peu.
Si nous n'en parlons pas, Vincent, alors effectivement nous resterons des inconnus. Quant au lieu, le principe même d'une intégrité consiste à perdurer dans un monde qui la menace en permanence.
Les mots trouvent immédiatement un écho en lui. De façon étrangement intense, Charles ajoute
« Je vous demande ce qui vous tient debout, car j'ai besoin de savoir à qui j'ai affaire,
sans perdre de temps. Ce n'est pas un simple contrat que je suis venu négocier. Je respecte votre refus de me répondre, mais j'espère que vous connaissez au moins les réponses à ces questions pour vous-même. »
Aucun homme ne sait qui il est, tant qu'il les ignore.
Assurément. La femme apporte le vin que Charles règle largement, sans hésiter. Il saisit son verre et le lève.
À notre drôle de rencontre, Vincent. J'espère qu'elle ne sera que la première.
Puis il se tourne vers la salle.
À ces gens qui s'amusent, sans se douter qu'il faudrait déjà voir plus loin.
Vincent lève son verre en retour.
À vous, monsieur, qui que vous soyez.
Les deux hommes avalent une gorgée.
La moue qu'ils font laisse penser qu'ils partagent au moins le même avis sur le breuvage.
Vincent ne déteste pas le moment, mais il doit en avoir le cœur net.
Ne jugez pas mon attitude comme un manque de respect. Je ne suis qu'un artisan, et je mets un point d'honneur à satisfaire mes commanditaires. J'ai toutefois peur que nous partions sur de mauvaises bases.
Mettez-vous un instant à ma place, monsieur. Personne ne vous recommande, vous me donnez rendez-vous dans un bal, vous m'offrez à boire, et pourtant je ne sais toujours rien du travail que vous souhaitez me confier.
Votre méfiance est légitime. D'ordinaire, vous concevez des passages secrets pour des gens qui en ont envie. Cette fois, si vous acceptez, ce ne sera pas le cas.
Je n'ai pas besoin de vos services à titre personnel. Par contre, la cause que je représente en dépend.
Une cause ? Vous n'êtes pas de ces anarchistes ou de ces pseudo-partis qui veulent révolutionner le monde.
Auquel cas, notre discussion s'arrêterait là. Je n'apprécie pas les gens qui parlent de liberté en tuant ceux qui ne partagent pas leurs opinions.
Non, Vincent. Aucune violence ne m'anime. Je suis désolé de ne pouvoir vous en dire plus pour l'heure, mais avant de vous dévoiler quoi que ce soit, je vais avoir besoin d'apprendre à vous connaître. Je dois savoir si je peux vous faire confiance.
J'en suis là également. Que voulez-vous savoir de moi ?
Vincent hésite. Il choisit la franchise.
Qui êtes-vous, réellement ?
Le dénommé Charles détourne les yeux vers la salle.
Disons que j'ai suffisamment vécu pour apprendre que ce que l'on fait pour soi-même n'est jamais l'essentiel. Je suis assez vieux pour avoir appris que cette vie peut vous reprendre tout ce qu'elle vous a donné. Je suis assez loin sur le chemin pour savoir que les vrais combats sont silencieux et qu'ils exigent parfois que l'on se sacrifie pour eux.
Ces paroles touchent Vincent au plus profond de lui-même.
Que voulez-vous de moi ?
Que vous réfléchissiez, Vincent, à ce que vous éprouvez ce soir, aux questions que j'ai l'indiscrétion de vous poser. À votre première impression en me voyant, je suis certain que vous avez appris à écouter cela. Ce sera votre premier pas vers moi. Il ne sera pas question de vous faire œuvrer gratuitement. Mais vous devrez vous engager. Il ne pourra pas s'agir d'une simple prestation. Vous faire croire autre chose serait vous mentir. Prenez le temps. Dans quelques jours, je vous proposerai un nouveau rendez-vous. Peut-être déciderez-vous de ne pas vous y rendre. Vous n'entendrez alors plus jamais parler de moi. Si, par contre, vous acceptez que nous devenions autre chose que des inconnus, alors nous aurons beaucoup à faire.
Vous ne me confierez rien de plus ce soir ?
L'homme se penche et murmure, les yeux rivés à ceux de Vincent.
Ce n'est pas pour dissimuler un quelconque secret que je vous sollicite. J'ai besoin de vous pour protéger une vérité qui a changé la vie de tous ceux qui en ont pris connaissance.